RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste qui est avec nous. Il exerce du côté de la Haute-Garonne. Nous sommes...
Oui, en ruralité.
T'es considéré comme médecin du rural.
Moins que toi encore.
Oui.
T'es encore plus rural.
Ouais, merci.
700 habitants, les moins 7000, on est 10 fois plus.
125, quoi.
Ça sent quand même le confit de canard ce matin dans les grandes gueules. Avec Pomar et Marty, là, on est dans le sud-ouest, on est bien. Là.
Avec le paradoxe du sud-ouest.
Nous sommes avec
moins de maladies cardiovasculaires.
Bruno Pomar, maire de Belleflou dans l'Aude et l'ancien policier du RAID, qui est avec nous.
Il se rend pas compte de la chance qu'on a, c'est ça le problème. Il faut les laisser dans l'ignorance.
Mais surtout qu'ils s'en rendent
compte.
Ils restent chez eux.
Hein. Et puis,
pas comme nous.
Barbara Lefebvre nous accompagne aujourd'hui, enseignante.
Chèvre, mais c'est pas pour faire du profit. Tu vois.
En reconversion. Tout à l'heure, on va parler écologie et compost. On dit compostage, non ?
Compostage, oui.
Compostage.
Le compost.
Le compost, mais l'art de composter, c'est le compostage.
L'art.
Bah c'est tout un art.
Puis on composte aussi.
C'est tout un art. Moi, j'ai vu qu'il y avait.
C'est une technique. Après, de là à dire c'est un art.
C'est un art écologique. J'ai vu qu'il y avait
jeter des pelures de carottes et
des
de courgettes.
Des tutos pour bien composter, etc.
Ouais, on en parlera. C'est très technique. C'est pour ça que bon.
Non, mais ne sois pas trop technique parce que je pense qu'ils n'ont pas compris.
L'art de laisser pourrir. Alors, Olivier, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, à 11h20 dans le GG, c'était match pour ou contre le bac à compost pour tous. À partir du 1er janvier 2024, c'est la loi. Il faudra que nous ayons un bac à compost à la maison pour recycler les épluchures.
J'attends que les policiers qui vont débarquer chez les gens vérifient. Avez-vous un bac à compost?
On en parlera tout à l'heure.
Ils ont déjà dit qu'il n'y aurait pas de contrôle.
Quelle est la taille?
Allez, en attendant, c'est le à vous de choisir.
On est en France.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Le à vous de choisir.
Non, ça va.
Du tennis?
Non.
Gym?
Ah ouais?
C'est vrai?
Ballon.
Faut que tu bouges, hein.
Quoi?
Quoi?
Et la natation?
Dans l'eau?
Bah ouais, dans l'eau.
Bah non.
Oh, je sais, le hula hoop. C'est chiant.
Non!
Non!
Voilà, les jeunes moins sportifs que les plus de 65 ans, c'est ce que révèle une étude dont nous allons parler. Et c'est vous qui avez souhaité que nous en parlions et on vous attend au 32-16.
Elle est particulièrement alarmante cette étude puisqu'elle a été faite sur 9000 élèves de 6e, 10-12 ans, donc dans trois régions différentes, la Bretagne, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, pour avoir des niveaux socio-économiques différents. Eh bien, on s'aperçoit que 3 enfants sur 5 qui entrent en 6e ne savent pas enchaîner 4 saut à cloche-pied. Le professeur François Carré, qui a mené cette étude et qui est au CHU Pontchaillou à Rennes, dit dans Le Parisien que c'est une catastrophe. Ces chiffres sont très mauvais, c'est un recul. Par exemple, les enfants ont couru à une vitesse maximale moyenne de 10,2 km/h. C'est un chiffre qui a baissé de 1 km heure pour les garçons et de 0,6 pour les filles depuis 1987. Aujourd'hui, un homme de 65 ans ou une femme de 65 ans qui est actif sans être sportif ferait mieux que les jeunes. Donc on a des petits vieux à la maison là. Nos enfants sont des petits vieux. Alors pourquoi ? Parce que il y a le problème de l'alimentation, donc des enfants en surpoids, il y a aussi des enfants sédentaires qui passent plus de temps devant les écrans qu'à aller courir ou faire du sport. Il y a aussi sans doute une responsabilité de l'éducation nationale.
Ah.
On peut dire qu'à l'école, c'est quand même pas une priorité.
Non.
J'ai appris à cette occasion,
oui,
Barbara,
oui. Mais à l'école,
que
rien n'est une
les
priorité,
professeurs des écoles, avant ils étaient, parce que ce sont les professeurs des écoles qui font sport, hein, à l'école primaire, il n'y a pas de prof de sport,
oui.
Hein. Je sais pas si vous avez des souvenirs. Si. Bah, maintenant, aujourd'hui, ces professeurs des écoles, ils n'ont même plus des profs de sport au recrutement. On leur demande même plus d'avoir des compétences en la matière.
Et, oui.
Et ce sont eux qui doivent ensuite assurer le sport
à
l'école.
Parce que depuis, ils doivent faire de l'anglais.
Alors, monsieur Papendiaye, oui. Et son homologue au sport, madame Oudé, à Castera en ont conscience, c'est un vrai problème. Donc ils ont lancé une initiative pour favoriser la plus grande pratique sportive des ados avec des sportifs de haut niveau qui vont se rendre dans les écoles pour porter le message de la Team France des 30 minutes. Il faut faire 30 minutes de sport par jour. Souvenez-vous, c'est ce qui a été mis en place par l'Éducation nationale.
Tu sais,
est-ce que c'est suffisant? Est-ce que déjà vous êtes inquiet de ça? Tiens, toi qui es un grand sportif, Bruno.
Alors, avec les jeunes.
Oui, et c'est surtout que moi j'ai vu, effectivement, cette analyse est intéressante. Moi, je l'ai vu depuis 30 ans, puisque ça fait 30 ans que je préside Red Aventure Organisation et on a pour principe de faire plein de séjours à des jeunes et faire du sport. Et en 2000, lorsque je commençais à faire des épreuves avec des gamins des quartiers d'un peu partout, ils avaient une résistance physique, très franchement je veux dire, qu'ils n'ont plus maintenant. Je vois, on reçoit des groupes maintenant, je pars courir avec eux. Bon, certes, je m'entretiens bien. C'est une catastrophe. Leur faire courir un kilomètre, au bout d'un kilomètre, tout le monde s'arrête. En vélo, c'est pareil. C'est vrai que c'est un véritable
problème. Ils ont pas de résistance.
Ouais, mais oui, c'est de l'hygiène. Faire du sport, ouais, c'est vachement important. Et je trouve qu'effectivement, il va falloir trouver. Faire de la pédagogie, c'est une chose. Bon, amener les sportifs de haut niveau dans les écoles, je veux bien. Mais concrètement, il faut que les associations se mobilisent, les associations sportives, que les clubs sportifs et les fédérations s'ouvrent plus au sport populaire, c'est-à-dire ouvert à tout le monde et pas regarder que le sport élitiste. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire parce que on va dans le mauvais sens.
Les parents aussi, peut-être quand même, faut impliquer aussi les parents.
Tout le monde, je crois que c'est de l'hygiène de vie, je crois, le sport.
C'est pour ça que j'étais un peu étonnée.
Le Covid n'a pas aidé les choses.
Enfin, j'étais un peu étonnée que tu mettes tout de suite ça sur le dos de l'éducation nationale parce que j'ai dit
l'alimentation, j'ai dit aussi le code de vie sédentaire, les écrans.
On peut pas
l'éducation nationale parce que on doit faire du sport aussi à l'école.
C'est pas honnêtement quand tu vois ce que c'est aujourd'hui et le temps réel de pratique du sport qu'ont nos collègues. Parce que quand tu es au collège, par exemple, et que pour aller au stade, tu marches une demi-heure, alors après, t'as les ados qui au vestiaire, ça met 3 heures. Oui. En réalité, ils vont courir une demi-heure et après, il faut revenir.
Et pourquoi on n'a pas fait plus de stades?
Parce qu'on n'a pas d'installation.
Oui, mais ça, c'est un choix politique.
Alors, en ville encore, ça peut aller. Et c'est même pas sûr parce que des fois, t'as des conflits entre établissements pour avoir accès aux infrastructures sportives.
Cette place.
Là, le vrai engagement sportif, c'est plutôt celui que tu as dans la famille, c'est-à-dire le fait qu'on va t'inscrire dans un club de sport. Et aujourd'hui, je suis désolée, dans toutes les villes, les banlieues, les zones rurales, le club sportif de la ville ou du village, c'est quand même aussi ce qui fait la vie de la commune. Et là, c'est donc pour moi, c'est la responsabilité des parents. Moi, je suis navrée quand tu donnes à bouffer, excusez-moi du terme, de la merde industrielle à tes enfants. Ou que quand ils sont petits, les enfants, tous les mercredis, ils aiment bien, on va au McDo, tu leur donnes des habitudes pourries. Quand tu fais boire des boissons sucrées à tes enfants petits, et quand ils sont au collège ou au lycée, tu trouves normal de leur filer de l'argent pour le midi, au lieu d'aller manger à la cantine, d'aller manger au kebab, et que le reste du temps, tu les laisses toute la journée devant l'ordinateur et l'écran, faut pas venir nous dire, dites donc, ils sont gros, ils ont du diabète, et puis ils arrivent pas à sauter à cloche-pied.
Et tu as un autre
enjeu, Barbara. La responsabilité, c'est celle des parents. Ouais, moi, je suis navrée. Vous êtes les éducateurs de vos enfants. Vous les voyez végéter sur un canapé, à prendre des kilos. Moi, je vais vous dire, en tant que prof, j'ai vu des gamines de sixième ou des gamins de sixième en état d'obésité. J'en avais 2-3 par classe. C'est beaucoup trop, 2-3 par classe.
Elle est globale, la responsabilité, Barbara.
Et je suis gentille encore.
C'est bien parce que justement, tu es dans une société où tu sais qu'il y a une explosion du surpoids, du fait de la malbouffe, etc., que tu dois régler les curseurs autrement. Et l'éducation nationale fait partie de ces curseurs.
Ça
fait 40 ans ou 50 ans que la France ne fait pas le dixième des activités physiques que peuvent faire les pays anglo-saxons.
Ouais.
Je veux dire, dans les pays anglo-saxons, dans les universités, on fait 50% de son temps en activité physique.
Tout à fait.
50% du temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que précisément, l'activité physique, c'est 50% de ton bien-être et de ton développement, quoi. Je veux dire, chez des gamins qui ont leur cœur en développement, leur activité respiratoire, leur possibilité respiratoire en développement, on leur fait pas faire de sport. Oui, c'est une folie. La France a toujours misé à côté de ça.
Oui, les conséquences. Oui, mais quelles sont t'es médecin. Quelles sont les conséquences cardiovasculaires?
Elles sont terribles, les conséquences. Oui. Ça veut dire que, aujourd'hui, tu prépares.
Tu sais ce qu'elle montre, l'étude? Aujourd'hui, dans la génération actuelle, pour les enfants surpoids entre 4 et 12 ans, ils auront tous un accident cardiovasculaire avant 40 ans.
Avant 40 ans, ils auront des AVC.
On ouvre
des retraites, pas besoin, ils iront même pas à la retraite.
Un avenir collectif catastrophique. Le meilleur exemple, tu as une. Tu regardes Tahiti. Ouais. La France, Tahiti. En 30 ans, les Tahitiens ont vu une explosion de l'obésité. Ouais. Pourquoi? Parce que McDonald's et Coca-Cola se sont implantés là-bas et qu'ils ont tout pris. Et d'un pays qui était sportif, avec une jeunesse qui était hyper sportive, aujourd'hui, tu te trouves avec justement un énorme problème d'obésité, de diabète. Une explosion
et
de
Jérôme,
diabète.
Quoi. Et Jérôme, ça
on n'en parle pas assez. Et si tu veux, on est en train de fabriquer les diabétiques de demain.
Ouais,
donc je veux dire, quand tu dis la responsabilité des parents,
Elle est collective.
Part de responsabilité.
Elle est collective.
L'éducation nationale a une part de responsabilité. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute parce que là aussi, c'est les décisions nationales qui font qu'on ne donne pas
dans un pays,
la possibilité d'eux. Ensuite,
on n'est pas dans un pays de culture sportive.
Au niveau local, moi, je prends l'exemple de Fronton. On a 3 stades à Fronton. On a trois stades, on a des activités, on a des terrains de sport et des infrastructures qui sont mises à disposition des écoles et qui permettent de faire cela. On a des associations sportives qu'on cherche à développer. Mais c'est partout en France qu'on devrait miser là-dessus.
Tu vas te faire élire à Fontaine, quoi.
Mais non, mais si tu veux, moi je suis de là.
Il y a un autre élément à prendre en considération. De l'utilité du sport au-delà de l'aspect santé. C'est en cours. Quand on sait que pour tenir les gosses en cours, tu le sais bien, Barbara, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Faire du sport aux jeunes.
Il faut les défouler.
Évidemment.
Bien sûr.
Évidemment.
Quand t'es ado,
ça découle de bon sens, ça.
Alors,
aussi.
Tiens, on a un éducateur.
Il se défoule en sweepant sur TikTok.
Mais voilà, un éducateur ça. Sportif qui est avec nous. Il nous appelle du Var, de Roquebrune sur Argent. Bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour, les grandes gueules.
Alors, est-ce que vous le constatez, vous, en tant qu'éducateur sportif?
Ah oui, globalement, quand on regarde toutes les études, les enfants, ils sont de moins en moins moteurs d'il y a 20 ans qu'il y a maintenant. Hein. C'est épouvantable. Hein. Comme l'étude vous le montrait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, les enfants, ils sont pas capables de faire des pieds joints d'affilée, hein, quatre pieds joints, ou alors après, il y a un pied qui va passer sur le côté, etc. Enfin,
c'est dû à quoi, votre avis?
Bah moi je pense que Jérôme Marty il a raison. Je pense que la politique sportive globalement a été abandonnée au fil des années. Puis ça a été abandonné au fil des années. Puis on n'est pas du tout un pays culturellement parlant pro sport. Hein. Quand vous regardez aux États-Unis vous avez quand même des sports qui sont retransmis à la télé à la fac en NCAA.
Sport universitaire. Hein. Oui.
Ouais voilà que complètement.
On n'a pas cette démarche. Parce que chez nous c'est pas une filière d'excellence.
Non. Si le haut niveau aussi. On est très bon.
Le haut niveau, mais même, je veux dire.
Haut niveau, oui et non, mais après, vous savez, il y a des disciplines où on est plutôt très, très bon. Le handball, on est plutôt très bon. Au judo, on est plutôt très bon. Mmh. Par contre, au tennis, là, vous voyez qu'il y a un trou générationnel, on est moyen. Mais tout ça, c'est plein de choses.
Oui, mais pardon, mais moi, quand je vois l'installation, j'ai des enfants scolarisés encore, j'ai toujours été effaré des installations sportives proposées. Enfin, c'est une honte. À Paris, les stades où ils vont faire du sport, ils sont sur le périph. Ils sont à côté du périph. Alors, ça remonte sans doute à Chirac, etc. Ils avaient décidé de faire les stades. Mais c'est dire le regard qu'on porte sur le sport, l'activité sportive.
Guillaume, est-ce que vous voyez effectivement aujourd'hui cette jeunesse arriver en surpoids? Vraiment.
Alors, je pense que ça dépend des milieux sociaux. Alors après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est justement vous allez avoir au niveau de la nutrition, par exemple, si vous venez d'un milieu aisé, vous savez que vous allez manger peut-être de la bonne viande qui vient du boucher. Peut-être que si vous êtes élevé, je sais pas, dans les milieux un peu plus populaires, et c'est du charal, ce genre de choses, quoi. Alors après, la nutrition, ça peut être une chose.
Et nos vies aussi. Il y a le mode de vie. Les écrans.
Mais l'école,
et là, il faut inclure les adultes
bien
aussi.
Bien sûr, il y a les écrans. Alors après, je pense qu'on donne pas assez envie aux jeunes de faire du sport.
Bien sûr. Et l'école de la République devrait être là pour gommer ces différences précisément. Et après, on devient comme on t'a formé. Comment veux-tu qu'un jeune voit que le sport est important dans la mesure où à la maternelle, au primaire, etc., ça ne fait même pas 10% de son temps.
Oui, c'est sûr.
Non, ça faisait 40% de son temps. Ils verraient que c'était important, mais là, on ne leur laisse pas la possibilité de le voir, quoi.
Peut-être changer aussi le système au niveau scolaire. Pendant des années, on a eu le débat, est-ce qu'il faut faire les cours que le matin et puis passer l'après-midi sur le sport. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Et ça peut même susciter des vocations sur... Pour des jeunes qui se disent tiens au final ce sport là ça me plaît, je vais essayer de me lancer dedans, etc., sans forcément faire des gens des athlètes.
Mais de toute façon, Guillaume, on est bien d'accord.
Merci Guillaume de votre témoignage, monsieur l'éducateur sportif varois. Merci Guillaume. Bonne journée, à bientôt.
Les gamins, ils sont pas en état, je suis désolée, de faire une compo de maths à 3h30 de l'après-midi.
Mais oui.
La plupart des pays développés, on peut commencer un peu plus tôt, on peut commencer même vers 7h45 les cours. On a des petits encas pour tenir la matinée. On a cours jusqu'à 12h30, 13h.
Oui, ça c'est le monde idéal.
Et l'après-midi.
T'as raison, c'est bien.
Et l'après-midi, c'est activité sportive et culturelle. Et là, crois-moi, sportive et culturelle, tu mets les moyens. Tu permets aussi de revaloriser nos collègues de PS, nos collègues d'art, nos collègues de musique qui sont toujours considérés comme quantité négligeable. Et nous, on aura les élèves en meilleur état le matin pour faire des maths, du français, de l'histoire géo.
Encore, on touche pas. On n'a jamais voulu toucher au sacro-saint modèle école le matin, école l'après-midi.
Parce que je pense que ça touche. Parce qu'il faut bousculer un peu les conseils.
Benjamin, nous appelle du Val-de-Marne.
L'éducation
nationale. Bonjour Benjamin,
c'est compliqué.
Oui, bonjour.
Professeur sciences de l'ingénieur, est-ce que ça vous étonne cette étude ou pas alors?
Pas du tout. Pas du tout. Même si elle est effroyable, elle ne m'étonne pas du tout. Parce que on le voit dès le primaire, maintenant. Les gamins, dans la cour de récréation, au lieu de faire comme nous, on le faisait à l'époque, jouer au ballon, jouer à chat, etc., c'est-à-dire courir, oui. Maintenant, ils ont déjà les doigts sur les portables. Ils restent, quand ils sortent dans la cour, ils jouent à leur jeu. Et c'est fini, ils ne courent plus. En plus du temps famélique d'EPS qu'ils ont dans leur programme.
Voilà. Excusez-moi Benjamin, vous êtes dans quelle école primaire où les portables sont autorisés?
Moi, je suis pas dans une école primaire, je suis en collège et lycée. Collège. Mais je les vois arriver, moi. J'ai un neveu qui est en primaire.
Lycée, oui.
Et ses copains ont déjà le portable.
Non, mais ils ont le droit d'avoir le portable dans la cour, même au collège et en école primaire. Normalement, c'est interdit.
Collège,
hein.
En primaire, je sais pas. En collège, je sais que dans le mien, ils avaient le droit dans la cour.
Eh ben voilà, ben normalement c'est interdit, mais c'est là qu'on voit que les fameuses lois elles sont même pas appliquées et que les chefs d'établissement ne les font pas appliquer.
Ils font ce qu'ils veulent.
Normalement c'est interdit. Le portable il doit être éteint au moment où on rentre dans le collège, rallumé quand on en sort. Moi j'ai été dans des collèges, c'était interdit.
Après
d'ouvrir
cours,
le portable
pardon,
à la récré.
Les cours c'est compliqué de faire du sport parce que alors maintenant il y a plus de terrain de foot parce que c'est trop genré. Vous savez, ils suppriment les terrains de foot parce que alors, c'est vrai que les garçons prenaient un peu toute la place dans la cour et les filles étaient collées au mur, elles avaient pas le droit de bouger. Donc c'est vrai qu'il fallait sans doute. Mais alors on arrive à l'aberration, c'est qu'on supprime tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sport. Parce
merci
que c'est trop genre,
Benjamin.
C'est
allez, aussi, on va regarder. Est-ce que cette étude vous inquiète? On vous a posé la petite question express là dans le. C'est vous qui, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, à 84% pour les 700 personnes. Là,
il y en a quand même 15% qui pensent que c'est pas inquiétant.
Oui, non, mais t'as toujours les rebelles. Hein.
Les amis, rebelles. Au 32-16, on a Florent qui est avec nous, qui est agent SNCF. Bonjour Florent.
Bonjour.
Bonjour Florent, c'est vous qui avez été tiré au sort et qui gagnait les places de foot pour Marseille PSG.
Super, je suis content.
Vous allez y aller avec
vous êtes de Marseille.
À votre accent, oui.
Ah bon, ouais. Ça sera pas trop dépaysant.
Non.
Et qu'est-ce que ça fait de perdre devant le PSG?
Ça va pas être facile
pour Paris.
Bah voilà, deux places, vous pourrez y aller avec. Avec qui allez-vous y aller d'ailleurs, Florent?
Je pense que j'y vais aller avec ma fille.
Tant mieux, vous allez pouvoir lui faire décorer une super affiche, l'affiche du championnat de France, Marseille-PSG.
En Coupe de France.
Super, c'est gentil, merci, je suis content, merci RMC, super.
C'est le coup de chance du jour, bravo Florent, félicitations, bon match demain, dans un instant avec les GG. Le GG 7 et match pour ou contre le compost à la maison, le compost pour tous, on vous attend au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est avec vous, c'est le 32-16 que ça se passe. Si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez même aussi les vidéos qui sont mises en instantané sur Twitter par notre community manager Thomas. Aujourd'hui, Barbara Lefebvre et Bruno Pomard vont faire équipe face à Olivier Truchot et Jérôme motivé, Marty. Hein, c'est l'heure du GG, c'était match.
Et motivé, on va les
RMC.
GG, 7 et match.
Vous allez finir en compost.
Pour ou contre,
quelle arrogance.
Pour ou contre le bac.
Quelle arrogance.
À compost pour tous. Alors écoutez bien.
Il n'y a pas son bac, Bruno Pomard.
Ce sera l'une des mesures phares de la loi anti-gaspillage, avec l'obligation de détenir un bac à compost à partir du 1er janvier 2024. Donc vous pourrez mettre dans ce bac à compost. Ce qu'on appelle les épluchures de fruits, les épluchures de légumes, le pain dur, pourquoi pas aussi les coquilles d'œufs. Alors
non, pas trop. Hein.
Alors la belle-mère, non, c'est ce que j'allais dire. Sauf tout ce qui est viande, etc. Sûrement pas dans le bac à compost.
Mais même les coquilles d'œufs, faut bien les écraser avant.
Chaque année, on a ce qu'on appelle 85 kilos de biodéchets qui sont gaspillés. Le gouvernement veut donc que ces déchets redeviennent de l'engrais, que ce soit utile. Donc, on devra avoir un bac à compost. Pour ou contre, d'accord, pas d'accord. L'équipe pour Bruno et Barbara. L'équipe contre Jérôme et Olivier. La parole à Barbara. 60 secondes.
On va pas se mentir en introduction, je le dis. Le caractère obligatoire de cette mesure me dérange. Pourquoi ça me dérange? Mais pourquoi je pense que c'est important? Parce que ça me dérange dans la mesure où faire son compost, ça peut être compliqué. Le compost n'est pas une poubelle. Donc ça, déjà, c'est important que les gens... Donc, si derrière cette loi, il y a toute une explication il y a des documents qui sont donnés aux gens pour qu'ils puissent faire un compost qui soit viable et qui, dont on puisse récolter quelque chose, c'est très bien. Les déchets ménagers, c'est 9% des déchets qu'on produit en France. Hein. L'essentiel des déchets, c'est la construction. 70% des déchets. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose de microscopique. Néanmoins, c'est nécessaire pour que les gens aient une attitude responsable vis-à-vis, en particulier, des déchets qui peuvent être tout à fait recyclés, les biodéchets, qui vont permettre, effectivement, de faire ce qu'on appelle du compost, donc des engrais. Maintenant, il faut organiser tout ce qui est collecte. Il faut organiser aussi les bacs, la distribution des bacs, parce que faut arrêter de faire croire aux gens qu'avec un petit bac sur le balcon, ils vont faire du compost. Le compost, c'est, ça marche davantage quand c'est du compost collectif, c'est-à-dire quand c'est tout l'immeuble qui fait le compost, ou toute une résidence. Là, ça marche bien parce que c'est des grands bacs. Par contre, le petit machin à compost sur votre balcon dans le 16e arrondissement, j'ai quelques doutes. Donc tout ça nécessite énormément de cadres
mais c'est du bon sens.
C'est du bon sens. Et ce sera très efficace si c'est bien mis en place.
Elle a donné tous les arguments pour nous.
Non, c'est du bon sens qu'elle a.
Arrêtons d'emmerder les gens. Qu'est-ce qu'on va oublier ça? Et puis ça, c'est typiquement la problématique d'un pays riche ou qui s'imagine riche. Moi, j'aimerais que tous les Français puissent avoir des épluchures. Parce que ça veut dire qu'ils ont des légumes frais.
Exactement.
Ça y est, allez, légumes. J'aimerais bien qu'il y ait des Français qui aient des morceaux de salade qui restent, parce que ça veut dire qu'ils l'achètent pas en sachet ou en truc. C'est qu'on est, on sait qu'on a une malbouffe avec une bouffe industrielle. La bouffe industrielle fait pas beaucoup de compost, hein. Donc on s'imagine quoi? C'est une espèce de wokisme ou de snobisme. On s'imagine que les Français peuvent faire du compost partout, mais celui qui est dans une banlieue, qui est dans un immeuble où il y a même pas une touffe d'herbe, où tu as que
83 kilos
et du ciment, tu t'imagines qu'il va faire du compost lui.
83 kilos.
Et il en fait quoi de son compost après quoi? Il y a une collecte. On va faire payer des redevances aux gens parce qu'on va organiser la collecte du compost.
Mais Barbara l'a dit avec. Mais c'est du bon sens.
Je voudrais pas faire
plutôt que d'utiliser des engrais de merde.
Au lieu d'utiliser.
Alain Marchal, tu l'arbitres, tu sanctionnes pas parce qu'il est flic, c'est ça?
On a face à nous quelqu'un qui est maire. D'un village de 700 âmes qui, par essence, est en ruralité et où le compost, on sait ce que c'est, et on s'imagine qu'on va faire faire du compost aux pauvres, à la pauvre personne qui vit dans une banlieue difficile. C'est hors sol, messieurs.
La ministre de l'écologie est hors sol. Ça fait penser à ces zones.
C'est un monsieur. Il s'appelle Monsieur Béchu.
Il y a Béchu et Panier Uniachier. On ne sait jamais tous les deux. Ils font tous les deux parce qu'on a coupé en deux le ministère de l'écologie. Je termine. Mais enfin, ce qui est dingue, c'est qu'une fois plus, que vous faire du compost. Si tu as envie de faire du compost, Bruno, rien ne t'empêche de faire du compost. En général, tu le fais plutôt à la campagne. En ville, je connais quand même très peu de gens qui font du compost.
On a l'occasion d'en faire bientôt.
Et sincèrement, rendre obligatoire, c'est emmerder les Français avec une amende.
Mais au début, quand c'était les poubelles sélectives, c'était pareil.
Envoyer les flics chez les gens, vérifier.
Non, mais c'est pas le but.
Mais on nous prend pour des imbéciles.
Mais non, mais les poubelles sélectives, ça a été le même cas. On a dit qu'est-ce qu'on va nous emmerder avec des poubelles de toutes les couleurs pour trier. C'est exactement pareil.
C'est pas la même chose.
Mais là, c'est du bon sens. Quand il y a 83 kilos par habitant, franchement.
Comment tu fais, par exemple, du compost, dans ta commune à Bellefeu, vous faites du compost?
Oui.
Et à Paris?
Mais en région parisienne, le contexte n'est pas le même.
Voilà.
Si on le fait dans les villes, ça s'organise. Non, mais les amis, vous rigolez, mais ça s'organise, tout simplement.
Mais tu viens de démontrer.
Vous êtes méprisant.
Dans les villes, ça marche pas.
Vous êtes méprisant.
Non, excuse-moi, Olivier. Ça ne marche pas si c'est fait comme c'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es, et je le sais, dans notre résidence, on a installé des bacs à compost. C'était pas encore encadré par cette loi, donc il faut faire des demandes, il faut faire des dossiers, il faut montrer quasiment patte blanche. C'est tout juste, il faut qu'on ait un référent compost dans la résidence, un copropriétaire qui était référent compostage, pour pouvoir justifier notre dossier auprès de la mairie, pour que la mairie décide de nous donner les 3 bacs à compost.
Ah oui.
Maintenant qu'on les a, on le fait le compost et il nous sert.
Comment on fait du compost alors?
Eh ben donc on doit prendre les déchets organiques. Donc les déchets organiques, tu les as cités. Il y a les déchets de cuisine, par exemple le marc de café, les épluchures, le pain, les laitages. Attention, pas de végétaux malades parce que ça c'est pas bon du tout. Ça te fout des germes.
Qu'est-ce qu'on appelle végétaux malades?
Ben tu peux avoir des plantes pourries, etc. D'accord. Voilà. La tonte de gazon. Tu peux même mettre de l'essuie-tout. Des sciures, du papier journal. Par exemple, la litière de mon chat, comme c'est une litière végétale, qui est en bois, une fois que j'ai enlevé les excréments du chat, je peux jeter la litière usagée dans le bac d'apport. Parce qu'il y a plusieurs bacs. Donc ça, c'est technique.
Toi, mais quelle complexité.
Bien sûr, parce que c'est pourquoi je dis.
Dans un mètre, c'est pourquoi, carré, tu vas faire ça.
C'est il faut faire bac plus 10 pour avoir un bac à compost.
C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit.
Oui.
Sur un balcon, c'est débile. Il faut absolument faire ça par résidence, par immeuble. C'est-à-dire qu'en bas de l'immeuble, il y a les 2-3 bacs à compost. Et c'est quelque chose qui doit être organisé par la copropriété.
J'ai ma compagne qui est élue à Saint-Maurice, 12 000 habitants. Donc vous voyez que dans une ville, ça se fait. Ça se fait.
Oui, ça peut se faire. Ça mais il faut fait. Que ce soit organisé. Il faut que ce soit organisé. Ça peut pas être fait individuellement. C'est de l'organisation.
Avant on va de menacer les gens parce qu'il y a une obligation. Oui. Mais c'est très français. Hein.
C'est pas obligé.
Si, organisons les choses et on verra si ça suit. Et si ça suit, très bien.
Donc, mais voilà, une fois de plus,
simplement, ça me fait penser aux ZFE, les zones à faible émission. On va interdire des véhicules. J'ai vu une étude en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, 70 à 80% des gens sont concernés, ne pourront plus circuler avec leur voiture. On fait des mesures anti-pauvres. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux bourgeois du centre de Paris.
Olivier.
Et là, le bac à compost, ça fait sans doute plaisir aux bourgeois du centre de Paris. Et ça va surtout pénaliser
plus. Alors,
surtout
d'ici Clément est avec nous. Clément nous appelle de Haute-Garonne. De quelle commune, Clément? Bonjour.
Ah, oui, bonjour. Je suis de Lévignac. Je suis à pas loin du docteur Marty.
Eh oui, on n'est pas loin, ouais.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure?
Moi, je suis pour. Mais j'ai un petit bémol, c'est que en fait, par chez nous, ils nous ont mis des puces sur les poubelles pour nous obliger à trier mieux. Là, on était en test depuis un an, et là, depuis janvier, c'est passé. Ça vient de passer, mais en fait, c'est pas au poids, c'est au passage du camion. On a droit à 10 passages par an sur 46 levées. Le reste, c'est tout payant. Donc, ils nous obligent en gros à trier. Bon, ça, on le faisait déjà parce que par chez nous, on a des terrains de 1000 mètres carrés, on est bien quoi.
La poubelle est pucée.
Et alors comment ça se passe?
Non, mais la poubelle pucée, donc c'est Orwell dans nos déchets quoi.
Comment ça se passe le compost alors précisément? Comment vous organisez?
Alors nous on l'avait déjà, mais en fait quand vous rendez votre poubelle, parce qu'on avait une poubelle végétale, ça aussi c'est payant maintenant. Donc en fait ils nous ont, si on avait besoin, ils nous fournissaient un composteur. Et du coup après il y a une petite réunion, ils nous expliquent comment ça fonctionne et tout ça. Mais nous on le faisait déjà, donc franchement moi je suis pour, il y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de nous obliger à tout. On est toujours pareil.
Faut pas fliquer. Ça, non, c'est le caractère obligatoire et payant. Parce qu'en fait, vous payez une taxe d'ordure ménagère, mais en plus, après, on vous fait payer en plus.
Mais Olivier, je crois qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord aujourd'hui.
Si on regarde les gens qui ont amené cette loi ou ce décret, enfin, je sais pas ce que ça sera, on va y retrouver toute l'industrie qui prélève les choses qu'il faut.
Bien sûr. C'est un business.
C'est un business, quoi. On est en train de créer quelque chose et d'enfermer les gens dans
Clément, du côté de Lévignac, qui nous dit, ils ont des puces, c'est payant. Bon, est-ce que c'est ça que l'on veut? On va continuer la discussion. Pour ou contre le bac à compost pour tous? On va regarder où on en est dans la consultation. L'équipe contre, l'équipe pour. Qui a pris la main? Qui a pris les devants? Attention, on regarde, c'est parti. On envoie le résultat de la consultation. Ouh, c'est partagé. Contre à 51%, pour à 49%. Mais comme disait l'autre, rien n'est joué.
Ça vous fait drôle, hein, tous les deux.
Rien n'est joué, tout reste à faire. C'est la mi-temps et on se retrouve dans un instant pour continuer la discussion avec Bertrand du côté de l'Aveyron.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue notre discussion sur les bacs à compost obligatoires à partir de 2024. On va aller du côté de l'Aveyron avec Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bertrand?
Alors, je suis éleveur de brebis laitières à Millau, donc depuis 2009, et je gère aussi avec une autre ferme voisine une plateforme de compostage de déchets verts.
Qu'est-ce que vous en dites alors?
Alors je suis contre l'obligation de composteur.
Merci Bertrand, on est d'accord.
Barbara, rejoins-nous alors.
Allez-y.
Le problème il est.
Ne détournez pas le sujet.
Un composteur c'est vivant parce que vous allez dégrader dans la matière organique. Donc quand vous avez un être vivant à la maison, il faut s'en occuper.
Voilà.
Ou en bas de l'immeuble, ou tout ça. Donc si vous avez, ça n'est pas que vous y mettez dedans, mais des épluchures de patates, des carottes, éventuellement une petite plante que vous avez achetée qui a fané, vous allez le mettre en votre composteur. Mais il va falloir y amener du ligneux ou de la cellulose pour que ça travaille, l'aérer. Il faut s'en occuper.
Exactement.
Si vous n'en occupez pas, ça va pourrir. Vous allez voir un tas de merde au fond de votre immeuble, et au final, ça va partir où ça? Ça va finir dans le sac noir.
Exactement. Vous allez,
voilà. Par contre, ceux qui ont la capacité, qu'un petit peu de terrain, quelques fleurs, qui veulent éviter d'acheter du terreau en magasin et faire un véritable... Cette démarche-là, ces gens-là l'ont déjà eu. Ces gens-là, ils ont déjà récupéré des palettes, ils se sont fait un petit composteur, ils l'aèrent, ils montrent à leurs enfants un peu un verre de terre, comment ça fonctionne et tout ça. Ces gens-là, ils l'ont déjà, la démarche. Faut pas les obliger, ils le font déjà.
Oui.
Il y a déjà des gens qui savent que la matière organique a un process. Elle démarre, c'est une plante, après elle se dégrade, il y a l'effet de la décomposition en matière organique. Il y a un effet où justement, en tant qu'éleveur bio, je voudrais quand même attirer l'attention là-dessus, c'est que laisser dans la nature des gens pas trop avérés de la fonction du compost, hein, cette bon, vous avez appelé ça un art, c'est pas forcément un art, c'est compostage, c'est une dégradation de la matière organique. Alors quand vous allez des pêcheurs de patates ou de carottes, posez pas de problème, vous allez voir, bon, vous allez peut-être avoir un problème d'état de compost et de putréfaction en fait. Mais quand vous allez sur une catégorie où vous avez des graines de plantes, et là je suis très attentif parce que je suis d'abord en bio depuis plus de 10 ans, et ces graines de plantes que vous avez achetées dans le commerce pour faire joli tout ça, vous n'allez peut-être pas arriver à monter votre compost à température, elle est dégradée. Et ces graines de plantes, vous allez les retrouver où après? Dans un parterre de fleurs de collectivité, dans la nature, et peut-être chez un voisin agriculteur qui y va traiter, parce qu'il y a des mauvaises graines dans la nature qui se promènent. Et alors, si on veut réduire les produits phyto en agriculture, il faut essayer de limiter la propagation de graines qui ne sont pas semées dans la parcelle, on va dire ça simplement. Et donc, l'effet...
Oui, mais
l'expert, il a travaillé à ce sujet. Hein.
Bah, il s'est
semblé... Ce que montre bien Bertrand, c'est la dimension technique du compost.
Ah, mais on est d'accord.
Et les gens qui... Les mecs qui, dans les bureaux, te font des lois... En faisant croire
finalement
que tu fais ton compost sur ton balcon, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le brasser, l'aérer régulièrement, sinon, et il faut surtout surveiller l'humidité. Si tu as trop d'humidité, tu vas te taper des odeurs, de la putréfaction qui va pas
tomber.
Et si c'est trop sec, ton compost, il est raté.
Et ça attire les rats. Donc Paris, qui est envahi par les rats, Madame Hidalgo va adorer le compost.
Oui, non mais en tout cas,
il n'y a pas que Paris. La France, c'est pas que Paris.
Nous, on n'est pas à Paris.
Je te le dis en ville.
Non, on est en banlieue parisienne.
En fait, et Bruno, vous êtes d'accord avec nous. Nous, on n'est pas contre le compost.
C'est
plus facile de faire ça dans l'Aveyron, dans les zones rurales à la campagne,
c'est ce que
dans les grandes villes. Et le caractère obligatoire est débile. Donc on est d'accord. Rejoignez-nous.
Allez-y, Bertrand, finissez.
Simplement, la démarche après, c'est qu'elle soit écolo, je fais partie de la démarche. Il y a une économie circulaire, c'est-à-dire c'est ce qui se passe sur l'économie des milieux. Les déchets collectés sur un milieu, donc en fait, bon, ce que vous allez mettre en motocomposteur sur votre balcon pour faire l'image, c'est des petites épluchures. Vous n'allez pas y mettre des brèches de la haie. Bon, alors le problème, vous n'allez pas forcément le réduire. Par contre, la part, le sac noir va être réduite, on est d'accord. L'ensemble de ces déchets verts que vous allez amener à votre déchetterie, elle est collectée, elle est amenée sur une plateforme de déchets verts, et là, du coup, on appelle ça un traitement, broyé, chauffé, aéré, vous l'avez très bien expliqué, donc c'est technique. Mais les déchets, si vous faites ça localement, c'est-à-dire que entre la déchetterie
pas la technique. C'est ça, il n'y a pas la technique.
Non, mais, si, localement, mais collectivement. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui qu'il faut faire les choses ensemble, comme les mobilités, les transports. Si on se déplace ensemble, on réduit quand même, on améliore ce bilan carbone, on réduit nos déchets.
T'isole pas tout seul. Non, mais là, il a raison.
Mais tout le monde ne vit pas au même endroit. Tout le monde n'a pas la même vie. Moi, je veux bien le tous ensemble. On voit bien quand même que le compost est plus facile à faire dans certains endroits que dans les appartements des villes, les petits appartements avec 4 bacs à compost.
Et vous faites des clichés. Écoutez,
merci Bertrand d'avoir été avec nous.
Olivier Jérôme.
Non, mais vous n'avez d'abord pas bossé le dossier, c'est clair.
Regardez, non, mais franchement, j'ai eu une info tout à l'heure de la productrice Anaïs qui me disait en Amérique du Nord, à Montréal, ça marche.
Oui.
Pourquoi ça marcherait pas en France ou à Paris, puisque vous êtes parisien, vous? Expliquez-moi.
Ça marchera que si. Non, mais attends, Bruno.
Montréal avec un...
Bruno, ça ne marchera.
C'est une ville comme une autre, excusez-moi.
Ça ne marchera que si c'est quelque chose qui est de l'ordre du collectif. C'est-à-dire que ça ne peut pas être.
Expliquez aux gens.
Ça ne peut pas être individuel. Il faut arrêter de mentir aux gens. Vous n'allez pas individuellement faire un compost. Il faut faire. On peut même faire un compost par quartier, mais par plusieurs immeubles.
Et ça crée du lien, c'est obligatoire.
De bac à compost géant dans
J'avais envoyé à Anaïs les photos de nos bacs à compost. Ça peut être que collectif, et deux, il faut qu'il y ait un référent, et ça crée du lien. Donc vous faites une boucle WhatsApp, il y a une personne qui est référente sur le compostage, il y en a deux trois qui savent s'en occuper.
Ça marche.
Oui, mais c'est pas ça. Le débat n'est pas sur ça.
Mais je rappelle le débat en bas de l'immeuble,
à partir du 1er janvier 2024, chaque foyer français devra disposer d'un bac à compost à son domicile. Et pardon, mais vous n'êtes pas dans le débat. Oui si. Ou non, vous êtes d'accord avec cette mesure? Nous, on dit non, c'est débile voilà. De rendre obligatoire à domicile. Eh oui. Après, on peut inventer.
Mais ça va s'organiser, Olivier. Sois un peu plus ouvert à la question.
Non, mais ça, quand ça, ça
c'est pas juste obligatoire de faire ça.
C'est ça va s'organiser. Qui va payer le bac à compost?
C'est les élus derrière qui vont reprendre.
Qui va le payer le bac à compost?
Non, mais c'est la municipalité. Nous, par exemple, on a fait un dossier. Notre copropriété, on a fait un dossier, c'était compliqué et tout, et c'est la mairie qui nous a donné les bacs à compost, des grands bacs en mais bois là.
Parce que je regardais les quelques expériences qui ont été faites et Stéphane qui, enfin, c'est sur un blog, je vois, il écrit, il dit dans le bac à compost, en fait, on a retrouvé toutes les merdes.
Bah voilà. Donc si les gens ne sont pas raisonnables,
je résume, je voyais un blog, mais c'est comme si dans la copro. Ils avaient mis un énorme bac à compost. Et donc, les types n'avaient rien compris. Ils venaient vider les assiettes dans le bac à compost.
Mais là, ça, c'est parce que les gens de cette résidence n'ont pas été suffisants. Nous, dans notre résidence.
Mais c'est la réalité, ça, juste. Après, tu vas mettre des usines à
copier. Alors, Tony est avec nous. Tony de l'Espart en Médoc. Oh, c'est joli, là.
Le tri des déchets, et c'est mal fait.
Ça ne se fait que si il y a du volontariat. Il y a des gens dans ma résidence.
Donc, pas d'obligation.
Alors, attendez,
on écoute
Tony. D'une très belle région viticole, l'Espart en Médoc, en Gironde. Oui, bonjour mon cher Tony.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous l'avez mis en place, vous, chez vous?
Ah ben nous, ça fait déjà une dizaine d'années que notre collectivité territoriale a mis en place un système de récupération des biodéchets par habitant.
Et voilà.
Sur à peu près une trentaine de communes. En fait, on a des petits biosseaux à domicile qui font à peu près 5 litres, où on verse directement nos biodéchets dedans, dans des sacs biodégradables. Quand ces sacs sont pleins, on les met dans notre bac qui fait 120 litres et ils sont collectés en même temps que les ordures ménagères dans une benne bicompartimentée.
Donc là, c'est bien, c'est organisé.
Ah, mais qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Olivier?
Non, pardon. Aujourd'hui, on a un ministre qui, d'une façon un peu péremptoire, dit il faut qu'à partir du 1er janvier 2024, donc dans un an, tous les Français aient un bac à domicile, quand même sans savoir si les communes vont l'organiser, comment ça va être organisé, et sans expliquer aux Français ce qu'il faut faire.
Non, mais c'est
là Tony nous dit,
parce que les élus sont responsables, ils vont se saisir de ça,
Tony.
Les élus.
Ah bah oui, expliquez-nous précisément comment ça a été mis en place, comment ça fonctionne, qui surveille, dites-nous, Tony.
Alors, nous, c'est une collectivité territoriale, on est géré par un syndicat intercommunal, si vous voulez, donc c'est géré par plusieurs élus.
D'accord.
Et en fait, on a un territoire de ramassage des déchets qui regroupe 33 communes.
Comme les poubelles.
Au total, c'est à peu près 35 000 habitants. Hors saison, parce que l'été, on passe plutôt dans les 70, 80 000. Donc bon, après, tout le monde ne le fait pas, le tri correctement. C'est un travail de fourmi. Hein. Mais après, quand les bacs sont collectés, c'est vidé directement à la plateforme de compostage où c'est rebroyé, recriblé, mis en tas, aéré, etc. Et nous, on en fait du compost et après, c'est revendu au particulier.
Voilà.
On a énormément de monde.
Donc vous voyez, c'est eux. C'est la collectivité après, qui fait le compost.
Moi, je suis pour ça.
Mais c'est normal, mais ça sera comme ça, les amis.
Non,
vous vous arrêtez juste à une phrase.
Mais c'est pas une phrase.
Allez plus
c'est
loin.
La loi.
Creusez un petit peu le sujet.
Non. Mais franchement, on fait toujours en France les choses à l'envers. Il y a un type dans son ministère qui veut imposer depuis Paris la même règle à tous.
Non.
Là, ça part des collectivités. Ils sont très
Olivier,
bien dans cette collectivité et ils organisent les choses. C'est ça qu'il faut faire en France.
Olivier, moi, je tape souvent sur les technos. Il y a pas que ça. Il y a des remontées d'élus, de petits élus
ça,
de terrain comme nous,
ça,
qui font remonter les infos. Non, mais il y a des infos qui remontent quand même.
Comment tu vas faire dans la barre d'immeubles
Mais on y arrive à le faire.
Il y a 1000 ou 2000 personnes.
À Montréal, ça se fait. Mais à Saint-Maurice, dans le 94, je vous dis
ah
ça.
Ah bah
le...
oui, Saint-Maurice.
Ben quoi? Il y a des immeubles, excusez-moi.
Et Tony,
tu vas payer ton bac à compost.
Ce qui est intéressant, Tony, et après, tu achèteras ton compost. C'est pas mal,
Tony,
mais trois fois.
Il le fait, Tony.
Non, Tony, ce qui est intéressant, c'est vous dites, après, le compost que vous faites, vous, vers chez vous, vous le revendez aux particuliers, voilà. C'est ça?
Il est revendu. En fait, si vous voulez, il y a quand même un coût de traitement après qui se passe derrière. Mais nous, on revend après, donc on en fait du compost. Et le compost, on le revend 20 euros la tonne.
Oui, 20 euros la
et
tonne.
On a énormément de monde. On a même les châteaux qui viennent nous chercher du compost. C'est un peu de fou. Ça fait des années, 17 ans que je fais partie de la collectivité. Il y a toujours du monde qui vient nous chercher du compost. Et on organise même une fois par an des journées où on fait une distribution gratuite de compost. Vous verrez la queue qu'il y a à chaque fois pour venir chercher du compost. C'est affolant, quoi.
Et c'est du bon compost?
Ah ben, il a l'air d'être bon. Après, on peut pas le vendre comme ça. Bien sûr, on fait analyser chaque lot par un laboratoire indépendant avant de le mettre en vente. On a des normes à respecter. Donc, une fois qu'on a le feu vert avec les normes OK et tout ça, on le met en vente Et les gens reviennent chaque année, donc je pense qu'il est bon, oui.
Merci, merci Tony. Bonne journée du côté de l'Espoir en Médoc. Merci.
Vous n'avez pas de voix tous les deux en face.
On va aller voir Jennifer qui est dans les Hautes-Alpes. Bonjour Jennifer.
Ok, vous avez rien à dire.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jennifer, alors?
Eh ben, moi, je suis contre le compostage obligatoire. Voilà. En fait, c'est le fait de l'obligation.
Le voilà, bon sens. La voix de la sagesse.
Le bon sens de Jennifer.
C'est l'obligation qui vous gêne.
Oui, voilà. C'est ça. Comme disait donc, la personne que vous aviez eue à l'antenne juste avant moi, c'est pas normal de devoir ensuite payer pour devoir avoir du compost. Vous voyez, moi, je suis dans un département où on a des composteurs qui sont mis à disposition au niveau des bennes.
D'accord.
Donc, c'est bien, chacun met son compost, enfin, pour faire du compostage.
C'est ce que vous le faites, chacun, vous ?
Alors, moi, non, je ne le fais pas, je ne jardine pas, donc j'en ai pas l'utilité. Pourtant, j'ai un jardin, mais je ne jardine pas, donc je ne vais pas ni acheter du compost, ni aller me servir. Mais par contre, je peux, si je veux, emmener mes déchets et le mettre dans le bac à compost. Et ensuite, les gens peuvent venir se servir gracieusement. Et c'est bien là où je ne suis pas d'accord non plus avec l'auditeur précédent. C'est le fait que là, c'est gracieusement. On a le droit de venir se servir. Je me verrais mal dans un immeuble, comme vous parliez au niveau de l'immeuble. Ça va être mis où ? Dans les habitations, dans un petit studio, il va avoir son petit bac qui va puer, parce que, excusez-moi, mais ça pue quand même, un composteur. Est-ce que ça va être en bas, là où il y a les bacs à poubelle?
Tout le monde n'a pas les balcons, Bruno Pommard.
Tout le monde a des petits jardins, d'ailleurs.
Il est grand, votre jardin, vous?
En plein Paris. Moi, j'ai un jardin. Voilà.
Mais Bruno Pommard, il pense que tout le monde a des jardins.
Il pense que tout le monde a un jardin, que tout le monde fait des carottes, pour éplucher, des patates à éplucher.
Jennifer, c'est vous qui aurez conclu la discussion. Vous voyez, Jennifer, elle dit, je suis contre, c'est bien de le faire, mais contre l'obligation. Jennifer, merci d'avoir été avec nous. On va regarder le résultat final. Alors, pour ou contre le bac à compost pour tous à partir de 2024, pour contre. Attention, quelle équipe a gagné? On y va, résultat final. L'équipe contre qui a largement pris la main et gagné.
Pommard a fini dans le compost.
69-31.
On avouera que j'ai un peu joué contre mon camp.
Oui, ça, moi, à ta place.
T'aurais pu être avec nous, Barbara.
Estelle Denis, s'il vous plaît. Estelle Denis,
il faut jouer
sur la bille. Le débat continue sur RMC.
On va pas refaire le match.
On y va.
On accueille Estelle maintenant.
Alors, bien sûr, nous, on va continuer à parler de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais est-ce que ces manifestations servent vraiment à quelque chose? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On parlera également d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui envisage des sanctions financières pour les entreprises qui n'emploieraient pas de seniors. Mais employer un senior, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau? Parce que, vous savez, avec le politiquement correct, on ne peut rien dire, vous voyez. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'embaucher un senior?
On a parlé du compost.
Quel âge de senior pour toi?
Eh bien, apparemment, alors, il y a des études très précises sur le sujet, c'est 49,6 ans.
Mm-hmm. Ah, mais on est tous les seniors.
Exactement. Ouais, c'est pour ça que se pose la question, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau?
C'est même 45 ans.
Oui, alors, en plus, et dans les startups, des fois, c'est 40 ans. Bon, bref, ça, ce sera 13h et 14h. On a une semaine de quoi, les garçons?
La Saint-Valentin.
Non. Bien sûr, une semaine de la Saint-Valentin. Alors
j'allais dire PSG Bayern ou Bayern.
C'est le même jour.
Mais c'est le même jour. Sauf que nous, on va parler de Saint-Valentin.
Vous négociez.
Avec cette question, réfléchissez bien. Passer toute sa vie avec la même personne, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? On attend vos témoignages au 32-16. Ça, ce sera à 14h notre débat.
Bonne émission avec
quoi, Alain? T'as pas répondu.
C'est quand elle est morte qu'on lui dit.
Oui. On pourrait te faire une émission spéciale, moi, sur ce sujet.
Quand elle est morte sur sa tombe, tu lui dis
C'était toi. Enfin. Jusqu'à.
Voilà. Nous, on se retrouve demain avec Didier Giraud, l'éleveur de bovins, Joël Dagosséry, la coach de ville, prof d'éco, Thomas Porcher. Bonne journée et bon débat avec Estelle.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.